l'eau, c'est conducteur de son.
Enfin, on s'est baigné souvent sur le bord de l'eau, et quand il passe un bateau, on met la tête dans l'eau, puis on entend le sillage de l'hélice dans l'eau. Avec des bonnes oreilles, tu me diras, oui, peut-être, mais on entend à forte raison aussi les vibrations d'un moteur dans une coque de bateau, qu'elle soit vide ou pleine, ça doit faire une différence. Ben, les basses fréquences se répercutent. Alors, mon oreille s'est entraînée à entendre pour le plaisir et pour... C'est devenu un entraînement.
Claude Bélanger, chanteur classique. Il vit à Saint-Michel-de-Bellechasse sur le littoral du Saint-Laurent. Il a l'oreille absolue, c'est-à-dire qu'il est capable de déterminer la note de musique produite par n'importe quel son.
Ben, les barges de lac, c'est des moteurs extrêmement puissants. Là. C'est gros comme un petit bloc appartement. Il y a un son, c'est une vibration mi bémol. J'ai une mi bémol dans la tête. Là. Ça... Je l'entends au travers de la maison.
Comme vous l'avez entendu, Claude Bélanger ne se sert pas de son oreille que pour la musique. Il y en a qui prennent des jumelles pour regarder le fleuve et les bateaux qui passent. Lui, il utilise ses tympans pour prendre le large.
Le son de la coque qui frôle l'eau, ben ça aussi, c'est le froufrou de l'eau sur la coque. Ça, on le perçoit quand on fait de la voile, parce que c'est le vent qui nous propulse et ça nous parle. Alors, il y a les moteurs de bateau, oui, c'est une chose, mais il y a aussi le déplacement d'un bateau. Sur l'eau, et l'hiver, on perçoit quand les bateaux frappent les glaces, on peut entendre ça. Et ici, ça arrive fréquemment qu'il y a un bateau qui va à l'ancre, se préparer pour passer quelques jours à l'ancre parce qu'il y a une aire d'ancrage. Et là, on entend le son des chaînons qui passent de la chaîne qui passe sur la coque jusqu'à boum, 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 boum. Et on entend la mise à l'eau de l'ancre.
Dans son salon tourné vers le fleuve, Claude Bélanger peine à entendre le silence. Son écoute est absorbée par la circulation fluviale, surtout par le grand sifflet grave qui alarme et charme Claude, la corne de brume.
Les cornes de brume, c'est savoureux. Les sons, et encore là les sons, parce que les cornes de brume, moi j'entends les notes. Alors, ça va être un do dièse ou ça va être un sol. Puis, quand il y a deux bateaux qui vont se rencontrer, ils ont l'habitude d'actionner la sirène.
Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Cette semaine, on n'écoutera pas beaucoup de bateaux, mais on va parler beaucoup de ce sur quoi ils flottent. Parce que cette semaine, le mot, c'est « eau ».
À la base, les chants de marins, il y a une fonction pour accompagner le travail beaucoup sur les navires. Alors, il y a beaucoup de chants de marins, en plus de ceux qui divertissent, qui vont tout simplement évoquer ce qu'on a vécu en mer, mais il y a beaucoup de chants, il y a des chants à tirer, des chants à haler, qui accompagnent le travail. Puis, dépendamment de ce qu'on fait comme travail, quand tous les hommes tirent sur un cordage, le rythme va être donné par ce type de chant-là. Et plus ou moins rapide selon la fonction, selon le travail qu'on fait.
Dites-moi donc, marin rebouté, de sur ces eaux voudrais-tu embarquer? Dites-moi donc, marin rebouté, de sur ces eaux voudrais-tu embarquer? Non, de sur ces eaux, je crains trop ces eaux que ton aviron puisse couler au fond. Pour embarquer sur la mer avec moi, je crois que tu m'y prends pour un autre que moi.
Francis Desilets est conteur, musicien et animateur au Cabaret du Roi. Il connaît les chants de marins, entre autres parce qu'il en chantait parfois quand il était membre de la formation Les Murènes.
Belle Virginie, les larmes aux yeux, je viens te faire mes adieux. Et là je pars pour l'Amérique et je m'en vais suivant le vent. Et adieu donc, belle Virginie. Les voiles sont déjà mises au vent.
Donc, les chants de marins, il y a beaucoup des chants de marins qui sont composés pour accompagner le travail des hommes sur le bateau. Des chants à tirer, des chants à haler. Puis, dépendamment de la fonction qu'ils sont en train d'exécuter, du travail qu'ils sont en train de faire, on peut s'imaginer des marins qui tirent ensemble sur un câble, ben la chanson va être plus ou moins rapide, le rythme de la chanson va l'être, pour accompagner ce travail-là. C'est sûr qu'en plus de ça, il y a toutes les chansons qu'on va se chanter le soir pour se divertir, qu'on va chanter dans les cabarets, dans les auberges, dans les tavernes, des chants qui décrivent plus la vie qu'on a menée sur la mer, les naufrages qui sont racontés, ce genre de choses-là.
Donc, c'est associé davantage... aux voiliers, les chants de marins, les chants de travail en tout cas.
Il y a beaucoup, beaucoup de chants de marins qui ont été réécrits justement le 16e, 17e, 18e, 19e siècle. On est encore aux voiliers, beaucoup, pour les manœuvres, tu sais, exécuter les manœuvres sur le bateau. Mais ça continue avec le vapeur, avec les bateaux à moteur qui arrivent parce que il reste encore des tâches à accomplir, mais peut-être moins quand on arrive dans la marine moderne. Mais là, ça va se transformer, puis il va y avoir d'autres chansons. Tu sais, qu'on pense à Sol de Louis qui en a écrit beaucoup, aidé, fantastique, mais beaucoup sur la marine moderne, sur les gars qui ont leur vie de boys à l'intérieur, des cales de bateaux, sur quand ils arrivent à terre, mais tout ça sur fond de marine très moderne. Donc, ça se perpétue, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'appartenance avec les chants de marins qui est très fort, puis qui traverse les âges.
Du rhum, des femmes et de la bière, mon Dieu. C'est tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé mieux.
Quand on parle de chant de marin, on parle de quel pays, de quelle culture?
Il y a beaucoup de cultures. Pour ce qui nous touche, nous, ici, c'est beaucoup anglo-saxon et français. Les Français sont assez forts sur le chant de marin. Les Bretons, c'est presque évident de le dire que les Bretons sont très forts sur le chant de marin et en français et beaucoup en breton. Les Anglais, les anglo-saxons ont ce qu'on appelle les sea shanties. Les chants un peu plus langoureux, ce qu'on définirait comme complaintes probablement en français. Beaucoup de sea shanties. Alors, il y a cette tradition-là qu'on retrouve aussi beaucoup dans la musique celtique. Quand on se retrouve dans un pub irlandais, il y a beaucoup de chants de marins qui vont passer. Autant des chants un peu plus vigoureux, rarement à répondre, très vigoureux, mais autant les complaintes, les ballades de sea shanty.
Quels sont les grands classiques du chant de marin?
Pour ce qui est du côté français, un grand, 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 grand classique, le 31 du mois d'août, qui est une chanson de l'époque napoléonienne, d'une guerre qui était gagnée par un plus petit navire français qui a réussi à défaire un gros navire anglais. Ça, c'est un des grands classiques.
Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous. Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre qui fend descendait la mer et les flots, c'était pour aller à Bordeaux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
Après ça, partons, la mer est belle, ces choses-là, c'est des chansons qui nous évoquent tout de suite le voyage, la mer. Dans Partons, la mer est belle, on a là un type de chanson qui, comment que je dirais ça, on voit la tristesse des gens qui restent derrière. Il y a ce type de chansons-là aussi dans les chants de marins. C'est ceux qui restent à quai, qui regardent partir les autres en se disant, est-ce qu'ils vont revenir?
Il fut surpris soudain. Et jeté au rivage à son cruel destin.
Partons, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au mât y sont les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots.
Petite galiote, toi qui vas dans ces îles. Petite galiote, toi qui vas dans ces îles. Toi qui vas dans ces îles faire un si long voyage, prie Dieu qu'il te conduise, toi et ton équipage.
Quand nous fûmes à la pointe de Toulon,
quand nous fûmes à la pointe de Toulon, trois gros navires anglais qui venaient pour nous prendre. Petit navire français, voudrais-tu bien te rendre?
Nous sommes 20 ou 30, mais tous du même accord.
Nous sommes 20 ou 30, mais tous du même accord. Nous souffrirons la mort plutôt que de nous rendre. Mettrons le feu à bord, nous ferons de la cendre.
Avons pour avantage trois vaillants charpentiers.
Avons pour avantage trois vaillants charpentiers. Ils ont tant travaillé qu'ils nous ont mis étanches. Par la grâce de Dieu, nous arrivons en France.
Nous arrivons en France à grands coups de canon.
Nous arrivons en France à grands coups de canon. Les canons ont tiré pour saluer la ville. Vive le roi Louis, notre navire arrive.
Oh, venez voir, mesdames, venez voir ce vaisseau.
Oh, venez voir, mesdames, venez voir ce vaisseau. Venez voir ce vaisseau, ce bâtiment de guerre. Voilà 7 ans passés qu'il n'a pas vu la terre.
Hommage aux océans. Cette semaine, avec les frères Georges et Rod Marin, hommage à la mer des Caraïbes.
Ma Caraïbe, si j'avais quelque chose à te dire, je te dirais ceci.
Si la mer savait nager, elle n'aurait pas besoin de lifeguard.
Si on arrêtait de jeter des rivières dans la mer, elle serait peut-être moins polluée.
Si on mettait la mer dans un verre d'eau, faudrait pas l'échapper par terre.
Si la mer poussait une blague, elle serait salée en maudit.
Si on voulait faire un surprise party à la mer, je me demande bien où c'est qu'on ferait ça.
Si la mer était vicieuse, je me baignerais peut-être tout nu.
Si Jésus pouvait marcher sur la mer, il aurait sûrement pu courir sur les rivières.
Si la mer était poivrée, ça ferait de maudites bonnes bouillabaisse.
Maudite Caraïbe. Quand on pense à depuis le temps que tu vis avec, c'est drôle que tu sentes pas le poisson.
C'était un extrait du disque Rémi AMFM de Paul et Paul.
La semaine prochaine, hommage à la rivière des prairies.
Quiconque a déjà eu un enfant chez soi, à qui donner des bains, s'est un jour fait poser la question « Hein, pourquoi nos doigts y ratatinent dans l'eau, papa? » Et là, comme on fait tout le temps quand un enfant nous pose une question dont on ne connaît pas les réponses, vous avez simplement changé de sujet ou fait semblant que le téléphone venait de sonner dans une autre pièce et vous êtes parti. Mais aujourd'hui, à Dans le champ lexical, on a décidé de vous éviter une autre humiliation comme ça et de vous expliquer pourquoi les doigts plissent quand on passe trop de temps dans l'eau. On a longtemps pensé que le phénomène était dû à l'eau qui passait sous la peau et la faisait gonfler. Mais en 2011, des scientifiques américains ont découvert que c'est en fait le système nerveux qui provoque le ratatinage. Après une exposition prolongée des membres dans l'eau, les nerfs induisent la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins situés au bout des doigts. Les vaisseaux sanguins perdent alors en volume, tandis que la peau a toujours la même surface. Donc, une peau de la même surface, mais des doigts plus petits, ben ça fait une peau qui plisse. Mais ça répond pas à la question ça. Pourquoi on ratatine? Et c'est là que ça devient intéressant. D'abord, c'est quelque chose qui est contrôlé par le corps. Donc quelque chose qui est voulu et qui est recherché par le corps. Donc il doit bien y avoir une raison biologique à ça. Si notre corps fait quelque chose et le conserve génération après génération, c'est généralement parce que ça lui a donné, à un moment ou à un autre, un avantage évolutif. Mais quoi? C'est quoi l'avantage d'avoir des doigts ratatinés? Bien, la dernière théorie veut que ce soit peut-être comme les rainures sur les pneus d'une voiture. Ça augmente notre adhérence sur les surfaces humides. Restait donc qu'à tester cette théorie, ce qui fut fait récemment par des scientifiques britanniques de l'université de Newcastle qui ont publié leurs conclusions dans la revue Biology Letters. Pour leur expérience, les chercheurs anglais ont rassemblé 20 volontaires et leur ont demandé de ramasser 39 billes de verre et 6 plombs de pêche avec la main droite pour les passer à travers un trou et les récupérer avec la main gauche et les mettre dans une boîte. L'expérience était menée sur une table ou dans un aquarium, avec les mains sèches ou après les avoir exposées 30 minutes à de l'eau à 40 degrés Celsius afin qu'ils soient bien ratatinés. Et avec des objets secs, on n'a remarqué aucune différence dans les performances des cobayes avec les mains plissées ou les mains pas plissées. Mais avec des objets mouillés, les doigts plissés ont mis 12% moins de temps à réaliser la tâche. Ce qui semble donc valider l'hypothèse que c'est pour avoir une meilleure adhérence. Alors voilà, jusqu'à ce qu'une autre théorie se pointe le nez, vous saurez quoi répondre la prochaine fois que votre enfant curieux va prendre son bain.
Je me trouve présentement à côté d'une fontaine et j'ai vraiment envie d'aller pisser. Mais, cher public, à cause de toi, je ne le ferai pas. Parce que, je suis à l'exposition « La mémoire de l'eau » du photographe Michel Huneau. Et je m'apprête à le rencontrer, parce qu'aujourd'hui, à Dans le champ lexical, on tourne autour du mot « eau ».
Moi, initialement... J'ai toujours été intéressé par la relation entre l'homme et son environnement. Je viens du domaine du développement international, développement durable. C'est une thématique constante. Pour faire une histoire courte, le projet a commencé en Haïti. J'avais fait un an après en Haïti pour l'actualité chez Atlem. Je suis revenu ici. J'avais fait des reportages vraiment axés sur la résilience et des histoires positives, des gens qui s'en sont sortis et qui veulent s'en sortir. Je trouve que c'est important et ça manque souvent dans les médias, moi je trouve. Et puis, quand j'ai vu ce qui se passait en Venise, en Québec, près de chez moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire en plus? J'ai énormément couvert. J'ai dit, encore une fois, moi, j'aimerais qu'on regarde les gens qui se battent pour sauver leur maison depuis 5 semaines déjà. Alors, j'ai été avec Martin Fort, journaliste. Et puis, on est arrivé, on avait nos bottes à l'eau, comme tous les journalistes de désastre. Et puis, on avait les pieds dans l'eau. Et c'est au plus haut des inondations, le 31 mai, si je me souviens bien. Et sinon, le 1er juin, on est arrivé, on avait de l'eau jusqu'aux hanches. J'ai regardé le lac, il faisait beau, c'était une très belle journée printanière. Je me suis dit, je suis bien. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un projet. Mon nom est Michel Huneau et je suis photographe documentaire. L'exposition en ce moment, ça s'appelle « La mémoire de l'eau ». C'est un travail photo que j'ai fait à Venise, en Québec. Concrètement, c'est des photos pendant, après. Donc, il y a 20 diptyques, des duos de photos. Donc, 40 photos au total. Je fais toujours une photo très formelle, cadrée soit d'un paysage, d'une maison inondée. Et ce que le paysage de la maison a l'air, deux mois, sinon six mois après. J'ai fait le reportage, effectivement, sur les gens qui se battaient pour sauver leur maison. Je pense que c'était important. Je pense que c'était pas une histoire racontée. Mais j'avais en tête, pour moi, une des causes du désastre, c'était la beauté du lieu. Moi, j'étais là. Immédiatement, je pense qu'on a une attirance vers l'eau, tout le monde, peut-être plus au Québec. On a des souvenirs d'enfance au chalet, à la pêche. Il y a la brise. Ça rappelle des souvenirs, c'est une émotion incroyable. On a un désir irrésistible d'habiter dans des zones riveraines. Alors que ces zones-là, ben, par nature, sont problématiques, non? Sont inondables, c'est une zone riveraine. Alors, donc j'ai terminé le projet pour l'actualité. On peut encore le voir en ligne, à l'actualité.com, mais je suis retourné par curiosité, surtout par accès. C'est rare que je travaille ici, donc c'est prêt. Donc, j'ai le luxe de retourner. Donc, je vais aller voir par moi-même. Je vais retourner au mois de juillet, voir ce que ça a l'air. Et j'ai emmené des photos, donc j'ai commencé à faire des avant-après, des pendant-après, en fait. Et pour moi, c'était très descriptif. C'était juste pour montrer c'est quoi l'impact de l'inondation. Tout simplement, sans commenter, juste visuellement, c'était ça pendant, c'était ça après. Ça, c'était le premier niveau. C'est un peu comme ça. Et ensuite, je trouvais que ça fonctionnait bien, donc je suis retourné au mois d'octobre suivant et j'ai continué le projet. J'ai choisi le mois d'octobre parce que je trouvais que visuellement, c'était intéressant aussi. Ça apportait une autre saison, le passage du temps, et c'était avant l'hiver. Ça donne quoi six mois après que les gens se préparent à l'hiver? Et six mois après, j'ai constaté que visuellement, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements, visuellement. Il y a quelques cabanes qui ont disparu, des maisons qui ont rénové. Tout à coup, tu vois que les fenêtres ne sont pas à la même place. Certaines maisons ont été surélevées. On voit des maisons sur pilotis, effectivement, donc surélevées. Mais je pense que tout le monde qui a vécu des inondations sait très bien que, en fait, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien. C'est un peu le gros problème avec les inondations. En même temps, j'ai présenté le projet, il a été publié un peu à l'extérieur du Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique, et aussi aux Pays-Bas. Et deux fois, j'ai eu la question de gens très brillants qui m'ont demandé « Mais comment tu as fait pour savoir que cette région-là allait être inondée? »
Mais tu n'es pas allé pendant les inondations, justement?
J'étais pendant les inondations. Mais j'imagine que
parce qu'ils pensaient que c'était le contraire de avant.
Que c'est le contraire. Après. Parce qu'on est tellement habitué de voir, et ça, c'était mon... Un autre niveau que moi je voulais amener, c'est une formule qui est utilisée en cas de souvent l'avant-après ou pendant-après, désastre majeur.
Ouais.
C'est vraiment été un désastre majeur pour le Québec. Ça a touché beaucoup de vies, ça a été un drame familial, ça a été intense. Tout le monde qui a vécu une inondation le sait, c'est pas besoin d'avoir des morts pour que ce soit intense. La maire de Venise en Québec, lui, quand même, m'a dit c'est vrai, c'était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort. Ça, c'est intéressant.
Et puis, tes images sont loin d'être les images du Japon, justement.
Justement, le maire de Venise en Québec m'a dit « C'est pas comme au Japon. » Et là, il se doutait pas que moi, j'arrivais du Japon. Okay. J'arrivais du Japon. Une de mes cartes de visite avec les Japonais, c'était le projet de Venise en Québec. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Les Japonais qui ont vécu un désastre d'une autre ampleur se reconnaissaient énormément dans ces photos-là. Parce que les gens qui ont survécu, ils dealent avec ça en ce moment. Leur maison qui était inondée, qui a de la boue partout, qui doivent décontaminer. Et le lien s'est fait instantanément. Encore aujourd'hui, au vernissage, il y a des gens qui m'ont dit « Ça m'a frappé immédiatement, j'ai une maison inondée. » On sait exactement. Donc, pour ce qui est de ce qu'on peut voir visuellement, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment de niveau. C'est un exemple d'impact du changement climatique ici et maintenant. Il n'y en avait pas des tonnes. Là, il y en a un qui est assez frappant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail bien fait qui s'est fait sur la Chine, en Inde, en Amazonie. Mais ça frappe toujours plus fort quand ça frappe chez soi. Au Japon, l'école de pensée en ce moment, dans la région post-tsunami, il y a deux écoles de pensée. C'est, on n'avait pas mis assez de béton. On va faire des murs plus hauts, plus solides. Ça, c'est l'école moderne, l'industrialisation. Mm-hmm. C'est des zones qui n'étaient pas tellement occupées avant, en fait. Mm-hmm. Alors que l'école traditionnelle, ils disent, écoute, on a toujours eu des séismes. On a toujours eu des tsunamis. Puis avant, on ne les occupait pas, ces zones-là. On habitait plus loin, plus haut, mm-hmm. en harmonie avec la nature. Donc là, on a deux choses. Est-ce qu'on veut, en tant que société, décider qu'on va avoir un plan d'aménagement plus en harmonie? Et deux, il faut aussi prendre en conséquence, maintenant prendre en considération le fait que la nature qu'on connaissait, on la connaît plus tant que ça, malheureusement.
Vous le savez sans doute, et si vous l'ignoriez, vous allez l'apprendre brutalement, les gens, à l'époque de Louis XIV, ne se lavaient pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Pour tout dire, ils n'étaient pas très propres. Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça leur plaisait de ne pas sentir très très bon? Mais non, ça ne peut pas être ça, puisqu'ils s'inondaient de plusieurs parfums pour masquer leur odeur. Alors, pourquoi ne se lavaient-ils pas? Bien, il y avait, au XVIIe siècle, une très grande peur de l'eau. Cette peur est née de l'héritage des grandes pestes. On avait pensé que l'eau aidait à la propagation des maladies et des grandes épidémies. En fait, on développe au XVIIe siècle une théorie selon laquelle la peau est une membrane poreuse, que c'est par elle, que par les béances de la peau, entrent les maladies. Et pour la protéger, pour protéger la peau de ces maladies, on imagine que la protéger par une bonne couche de crasse est vraiment la meilleure façon. C'est particulièrement vrai chez les nourrissons. On les enveloppe, emmaillote en fait de linge très serré, et on ne leur lave pas le crâne pendant les premières semaines de leur vie, tant que le crâne est encore ductile, tant qu'il y a la fontanelle qui n'est pas fixée, parce qu'on pense que la couche de crasse qui va se former sur le dessus de la tête va protéger le nourrisson des maladies et de la mort. Nul besoin de dire que ça avait plutôt l'effet inverse et que beaucoup de nourrissons mouraient infestés par toute la crasse accumulée. Cette peur de l'eau est une peur particulièrement de l'eau stagnante, c'est-à-dire de l'eau croupie, de l'eau qui est restée dans un contenant ou dans une flaque ou dans un puits mal entretenu pendant longtemps. Là, en fait, ils n'ont pas tout à fait tort, les gens du XVIIe siècle. C'est vrai qu'une eau qu'on laisse là, les microbes et bactéries s'y développent, et puis c'est certainement pas une eau très très propre, justement, à la consommation. Seule l'eau vive est vue comme plus assainissante, mais toute l'eau vive, y compris celle de la Seine à Paris, ce qui, là, n'est pas tout à fait le cas, parce que la Seine est d'une malpropreté absolument... inimaginable aujourd'hui, bien plus pollué que ce qu'on peut imaginer avec des pollutions industrielles. On y jette tout, et même si l'eau de la Seine court, elle n'est pas pour autant propre. Mais effectivement, dans l'eau stagnante, pouvaient se loger les germes de la dysenterie, de la malaria, des typhoïdes, de diverses diarrhées qui affectent les gens massivement au XVIIe siècle. Et donc, puisqu'on a peur de l'eau stagnante et croupie, on ne va pas aller s'immerger dans un bain, hein, bien sûr. Pas ou peu, parce que faut nuancer quand même, mais on se lave quand même de temps en temps. Mais ce qui est surtout le gage de la propreté, ce n'est pas la douche ou le bain, d'ailleurs la douche n'existe pas, c'est la propreté du linge. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de changer de linge très souvent. La chemise, qui est la base du sous-vêtement à l'époque moderne, qui est longue chez les femmes et à mi-cuisse chez les hommes, doit être changée, dit-on, matin et soir. Chez les gens le moindrement fortunés, c'est ce qu'on fait. On change de linge. Et c'est la blancheur du col, des manches, de la chemise qui atteste de la propreté de la personne. Et par exemple, dans le Ménagier de Paris, qui est un genre de guide de base de la parfaite épouse et qui est vraiment un best-seller, toute bonne épouse, toute bonne ménagère a le Ménagier de Paris chez elle, on recommande dans un des chapitres d'avoir soin et cure, de tenir nettement le linge. Car l'homme arrivant d'avoir couru par là, par vous et par vent, par neige, par grêle, une fois mouillé, une autre fois sec, suant, tremblant, a besoin d'avoir du beau linge bien propre pour quand il entre. Et pour se nettoyer, entre les changements de chemise, on pratique ce qu'on appelle la toilette sèche. Alors, la toilette sèche, c'est pas une bécosse quand on va faire du camping sauvage dans les bois, non. C'est en fait de prendre un linge qu'on imbibe de vinaigre parfumé. Là, quand même, ils ont raison, le vinaigre nettoie d'une certaine façon. Et on s'essuie avec ce linge-là imbibé de vinaigre. Plus tardivement, au 18e siècle, quelques bases de l'hygiène vont apparaître, mais il ne faut pas pour autant penser, il ne faut pas garder quand même cette image d'un Versailles où personne ne se lave, où il n'y a aucune salle de bain. Ça, c'est une vision un peu exagérée. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au 19e siècle, quand on a rénové certaines parties de Versailles, on a détruit certaines salles qui servaient à la toilette et au bain. Mais reste qu'effectivement, il ne se lavait pas très souvent. Il va falloir attendre la césure de 1750, les premières pensées plus hygiénistes pour qu'on découvre les vertus de se laver les mains avec du savon, par exemple, avant de poser un geste médical. Non, c'est la base. On va aussi découvrir l'eau bouillie. Ah ben oui, le fait de faire bouillir de l'eau, hein, ça la rend un peu plus propre et ça élimine un gros tas de microbes dedans. Et ce sont ces progrès-là qui vont mener à l'hygiène qu'on a adoptée depuis. Alors, à vous de choisir entre la toilette sèche et votre petit linge imbibé de vinaigre ou votre douche quotidienne, selon vos préférences et votre conception de l'hygiène.
Tu sais que je t'aime aussi, mon amour. J'ai le cœur gros, mais je suis déjà parti, mon amour, sur un bateau. J'aurais bien aimé t'emmener avec moi, mais les vagues te font mal au cœur. Ma vie devenait un fiasco, mon amour. J'étais perdu. La main fera de moi ton héros, mon amour. Je reviendrai plus. J'aurais bien aimé t'emmener avec moi, mais les vagues te font mal au cœur. Te font mal au cœur.
Te font mal au cœur.
Donc, Jean-François Régnier, le 5 juillet 1995, vous avez sauvé quelqu'un dans les eaux du canal de la Chine. Pouvez-vous nous raconter votre exploit?
Oui, effectivement, j'étais à l'intérieur du musée près du canal de la Chine lorsqu'un cycliste est entré pour me dire qu'il y avait une dame en train de se noyer dans le canal. Alors, je suis immédiatement sorti à l'extérieur, je lui ai lancé la bouée de sauvetage pour m'apercevoir qu'elle ne faisait aucun effort pour l'attraper. Alors, tout de suite, je me suis dit, c'est peut-être une tentative de suicide, et puis je me suis déshabillé, ce qui, je dois le souligner, a fait beaucoup rire les gens après l'événement. Dans le fond, je voulais simplement enlever mes souliers parce qu'ils étaient lourds, mais un peu nerveux, j'ai presque tout enlevé, mais pas tout. Je suis ensuite sauté dans le canal et j'ai nagé jusqu'à la dame. Encore une fois, j'ai bien vu qu'elle faisait aucun effort pour s'aider, comme on dit. Alors, je lui ai agrippé le bras et puis j'ai nagé en l'attirant jusqu'au bord du canal. Vous pouvez penser qu'il y avait beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes et beaucoup d'automobilistes qui étaient arrêtés. Ça a même créé tout un embouteillage à l'époque. Il y a un citoyen de la Chine très gentil qui m'a aidé à sortir la dame du canal et qui m'a même invité après à aller prendre ma douche et à me changer dans les circonstances. Dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait quelques démarches, quelques téléphones pour savoir ce qui était arrivé à la dame. Et puis, j'ai jamais pu vraiment même connaître son nom, rien de ça, ça s'est passé vraiment vite. De mon côté, je me suis aperçu que les nouvelles allaient vraiment vite. Quelques heures à peine après l'événement, il y avait déjà eu une journaliste du Journal de Montréal et une journaliste de la presse qui m'interviewait à ce sujet-là. Ça a culminé quelques mois plus tard où j'ai été invité à une émission spéciale de Claire Lamarche pour célébrer bon, les héros de l'année, etc., etc. Ce que je peux vous dire que j'en retiens, c'est que, bon, c'est sûr qu'à l'époque, le fait d'avoir eu des articles dans les journaux, etc., ça me fait beaucoup plaisir. Mais il y a une chose qui m'a énormément déçu, et encore à ce jour, j'y pense, c'est que finalement, pour moi, c'était tout à fait normal. C'est une action normale que d'aider les autres. Et comme je disais, c'est un petit peu une déception de voir qu'une action comme ça devient, est considérée comme extraordinaire quand ça devrait être un réflexe civil, finalement généralisé.
J'ai des vagues dans la tête et des idées vagues. C'est comme à l'intérieur d'une valise après un long voyage. J'ai une tempête dans la tête et tout est à l'envers. Le bruit dans mes oreilles revient de l'intérieur. Combien de jours dure la vie? Je ne sais pas. Je sais seulement que des fois c'est trop dur et que ça prend tout mon temps. C'est trop dur et que ça prend tout mon temps. J'ai des vagues dans la tête, mais je n'ai pas le pied marin. Tout tourne un peu trop vite autour de moi. Je cherche appui, je vais tomber. J'ai un terrain vague dans la tête et j'y ai perdu ma boussole.
C'est tout pour nous cette semaine à Dans le champ lexical. Dans le champ lexical, qui est une émission de Joanie Larue, Mathieu Charlebois, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Également cette semaine, vous avez entendu les voix de Chloé Barry qui nous expliquait pourquoi Louis XIV ne sentait pas très bon et de Sarah Champagne qui nous a offert l'entrevue avec l'homme qui reconnaissait les bateaux à l'oreille en début d'émission. Si vous voulez aller sur Internet pour réentendre de nos anciennes émissions, ça se trouve au danslechamplexical.com ou sur iTunes. On est également sur Twitter au @danslechampl et sur Facebook, pas trop difficile à trouver. La semaine prochaine, notre mot sera le mot recyclage et non, on n'en profitera pas pour passer une reprise. Vous écoutez CIBL et l'émission qui nous suit, c'est l'émission Côté Jardin. Alors restez à l'écoute. À la semaine prochaine.
Je sais seulement que des fois c'est trop dur et que ça prend tout mon temps. Et que ça prend tout mon temps.